Vous écoutez On lit pour vous.
Plaidoyer pour une paix vélo-auto. Un texte de Philippe Mercure, paru le 5 septembre 2025 dans la presse. Explosif, vous dites? J'ai écrit récemment sur les pistes cyclables pour constater, encore une fois, à quel point le sujet suscite des réactions épidermiques, voire agressives. Je déplore le clivage entourant cet enjeu qui, sans être banal, n'est quand même pas une guerre civile. D'où cette chronique sous forme de plaidoyer pour la paix. J'aimerais vous convaincre qu'il n'y a pas de guerre, tout au plus quelques défis, et que les intérêts des cyclistes et des automobilistes sont beaucoup moins opposés qu'on le dit. Trois aspects vous ont enflammé, chers lecteurs. La sécurité, le stationnement, la congestion routière. J'y reviens un à un. La sécurité. La paix implique des concessions, et j'en fais une ici. À Lucie, Ghislaine, Alain et les autres qui m'ont souligné l'indiscipline des cyclistes, je dis « Vous avez raison. » Des vélos à contresens, des trottinettes électriques qui frôlent des piétons, des cyclistes qui roulent en tenant leur téléphone, mais pas leur guidon. Il y en a trop. On dira que piloter un vélo est moins dangereux que conduire un VUS de 2 tonnes bourré d'angle mort. C'est indéniable. Jérôme Laviolette, chercheur postdoctoral au département de géographie de l'Université McGill, rappelle que les cas de piétons et cyclistes tués par des cyclistes sont anecdotiques. Des automobilistes tués par des cyclistes? Ça n'arrive, pour ainsi dire, jamais. Fait intéressant, l'expert en mobilité pointe aussi une étude danoise montrant que les cyclistes commettent beaucoup moins d'infractions lorsqu'ils roulent sur des pistes cyclables que dans la rue. On dira aussi qu'il existe de nombreux cyclistes courtois et une légion d'automobilistes délinquants. C'est vrai. Mais ça ne peut servir d'excuse. Les vélos et autres engins, souvent électriques, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides. Plus de civisme de la part de tous les usagers de la route nous rapprochera de la paix. Le stationnement. C'est l'un des enjeux les plus sensibles. Oui, aménager des pistes cyclables se fait souvent au détriment du stationnement de rue, bien que la ville de Montréal affirme que 27% des pistes se font sans retirer d'espace. Il ne s'agit pas d'en nier les inconvénients. Du stationnement, ça peut être drôlement utile. Des lecteurs m'accusent d'ailleurs de nuire aux personnes handicapées en défendant les pistes cyclables. Je leur réponds qu'ils ne regardent qu'un côté de l'équation. Chaque fois qu'un citoyen renonce à posséder une voiture parce qu'il peut se déplacer autrement, vélo, transport en commun, autopartage, il libère une place de stationnement. Je vous parie d'ailleurs que les premiers à le faire seront les gens en forme, libérant de l'espace pour ceux qui ont vraiment besoin d'une voiture pour toutes sortes de raisons, travail, limitation. Entre la perte et la libération des places de stationnement, quel phénomène l'emporte? Bien qu'incomplet, les chiffres sont éloquents. La Ville de Montréal affirme qu'entre 2018 et septembre 2022, 5 834 places de stationnement ont été retirées au profit des pistes cyclables. Il n'existe pas de statistiques plus récentes. Mais même si on triplait ce chiffre, il représenterait encore moins de 2 % des stationnements de la ville, entre 475 000 et 515 000 places sur rue et 470 000 places hors rue. En contrepartie, Communauto rejoint 150 000 ménages à Montréal, dont 82 % ne possèdent pas de voiture. Cela libère des dizaines de milliers de places de stationnement. Les pistes cyclables ne sont pas le seul facteur qui pousse ces gens à renoncer à une voiture, mais elles y contribuent. Le fait qu'on se batte pour les places perdues sans remarquer celles qui sont gagnées n'étonne pas le chercheur Jérôme Laviolette qui a documenté le phénomène. Au niveau psychologique, dit-il, l'humain a horreur des pertes. Catherine Morancy, experte en mobilité à Polytechnique Montréal, a noté le phénomène avec les stations Bixi qui nécessitent le retrait de places de stationnement. Elle a calculé que 2 places profitent en moyenne à 12 automobilistes par jour contre 400 utilisateurs quotidiens d'une station Bixi qu'on peut installer sur le même espace. Un gain clair qui a pourtant suscité de l'opposition. Madame Morancy me souligne par ailleurs un phénomène beaucoup plus menaçant que les pistes cyclables pour le stationnement. L'arrivée massive des VUS. Avec des collègues, elle a calculé qu'une augmentation de 50 cm de la taille moyenne des véhicules provoquerait une réduction de 10 % des places de stationnement. Un VUS Santa Fe de Hyundai fait 77 cm de plus qu'une Prius C et 46 cm de plus qu'une Toyota Corolla à Hayon. Morale de l'histoire. S'il manque de stationnement à Montréal, c'est surtout parce qu'il y a trop de voitures et qu'elles sont trop grosses. La congestion. Fermer une voie de la chaussée pour aménager une piste cyclable, ça ralentit le trafic routier, non? Eh bien non. Jérôme Laviolette souligne que si la voie retirée accueillait du stationnement, on risque fort d'avoir amélioré la fluidité, puisqu'un automobiliste qui se stationne bloque la circulation derrière lui. Surtout, me dit Catherine Morancy, une piste cyclable à 2 voies permet de véhiculer 7500 personnes à l'heure, contre de 600 à 1600 pour le même espace qu'on réserverait aux voitures. Je vous entends. Oui, mais certaines pistes cyclables sont peu fréquentées. Et elles sont beaucoup moins occupées l'hiver. C'est vrai. Mais Mme Morancy fait remarquer que le réseau routier est aussi très loin de fonctionner à sa capacité maximale. En période de pointe, près de 90 % des voitures ne comptent qu'une personne à bord. Une rue congestionnée a l'air pleine, mais elle est pleine de vide, dit l'experte. Elle calcule que le taux d'utilisation de la capacité routière entre Laval et Montréal atteint à peine 6 % sur une période de 24 heures. On en revient à la même évidence. S'il y a du trafic routier dans les villes, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a trop d'autos. Et les cyclistes contribuent à réduire leur nombre. Alors, on enterre la hache de guerre? C'était « Plaidoyer pour une paix vélo-auto », un texte de Philippe Mercure, paru le 5 septembre 2025 dans La Presse.
Histoire d'abeille, un texte de Philippe J. Fournier, paru en mai 2023 dans L'Actualité. Lectrice, replongez un instant dans votre jeune vie adulte. Le vendredi soir enfin venu, vous vous préparez à sortir entre amis pour faire la fête, peut-être même aller rencontrer, ou du moins observer, l'âme sœur. Vous êtes prête pour l'aventure. Après tout, qui sait où la soirée mènera? Avant de partir, il faut se coiffer soigneusement. Peut-être aussi enfiler une nouvelle blouse. Appliquer un peu de mascara ou de poudre sur les joues. Maintenant, imaginez que, arrivé au bar, vous êtes accosté par un jeune homme avenant, mais qui dégage une forte odeur de vinaigre. « Ah, c'est mon parfum. Hier soir, j'ai mis ma fragrance à l'urine, mais je préfère alterner les deux, » répond-il à votre question circonspecte. Devant votre air horrifié, il avance. « Quoi ? Aucune étude scientifique ne démontre que ces odeurs ont un quelconque effet sur ma santé ou mon espérance de vie. » Il se dirige ensuite directement vers la scène de karaoké où il interprète « My Heart Will Go On » avec une voix qui ressemble à celle d'un chat qu'on égorge. Les abeilles sont sans contredit parmi les pollinisateurs les plus importants de la planète. Elles pollinisent non seulement les plantes à fleurs, mais surtout de nombreuses cultures cruciales pour l'alimentation des 8 milliards d'humains sur Terre. Le déclin de leur population, observé un peu partout dans le monde, est donc considérablement inquiétant. Les chercheurs citent déjà plusieurs causes pour expliquer ce phénomène, dont les changements climatiques et l'utilisation de certains pesticides. Lorsque des produits chimiques sont soupçonnés d'être trop néfastes pour la faune et la flore, ils sont généralement réétudiés par la santé publique et éventuellement retirés des rayons ou, du moins, leur usage devient illégal. Il arrive toutefois que certains produits aient des effets indésirables, beaucoup plus difficiles à noter, quand le trait entre l'effet et la cause ne se trace pas en ligne droite. C'est le cas d'un fongicide populaire et fort utile appelé le fenbucanazole, employé abondamment pour protéger les cultures de blé et plusieurs types de fruits contre les moisissures, champignons. Jusqu'à tout récemment, le fenbucanazole était classé sécuritaire pour les abeilles, puisque, selon les études préliminaires, l'exposition à ce produit n'avait aucun effet sur leur santé, ni sur leur comportement ou leur développement. Mais surprise, une nouvelle étude plus approfondie, menée par Samuel Boff, chercheur en écologie à l'Université d'Ulm en Allemagne, nous apprend que le fenbucanazole, même s'il ne tue pas les abeilles, semble dramatiquement nuire à la parade nuptiale qu'effectuent les abeilles mâles dans le but d'attirer des abeilles femelles. Cette danse de l'amour consiste à faire vibrer leur thorax à une certaine fréquence, comme une sérénade, en plus d'essayer de répandre leur odeur autour de partenaires femelles potentiels. Sauf que l'étude de Boff démontre que les populations d'abeilles mâles ayant été exposées au fenbucanazole chantent à une fréquence plus basse que celles ne l'ayant pas été. De plus, le fongicide entraînerait une modification du profil chimique des abeilles mâles, ce qui aurait un effet important sur leur odeur corporelle. L'expérience contrôlée a également révélé que les femelles semblent rebutées par l'odeur des mâles exposés au fongicide. Bref, le mâle chante mal et sent mauvais. Or, cela n'affecte pas directement sa santé ni son espérance de vie. Mais lorsque vient le temps de trouver une partenaire avec qui se reproduire, il se fait répondre « Tu es bien gentil, mais… » Cette découverte pourrait expliquer en partie pourquoi les populations d'abeilles continuent de diminuer partout malgré les efforts pour bannir certains pesticides. Le fongicide ne nuirait donc pas à la santé de l'individu autant qu'à la santé de l'espèce entière. Cette découverte pourrait expliquer en partie pourquoi les populations d'abeilles continuent de diminuer partout dans le monde, malgré les efforts des scientifiques et des politiciens pour bannir certains pesticides néfastes, et ce, depuis plusieurs décennies. J'aime répéter à mes étudiants que les sciences naturelles n'avancent pas en ligne droite, mais passent plutôt par des cycles de recherche improductives, frustrantes, puis de grandes découvertes historiques. Parfois, les scientifiques doivent creuser davantage à travers les recherches de leurs prédécesseurs pour mieux comprendre les causes et effets dans la nature. Ce n'est que la persévérance et la curiosité qui feront tomber les murs de ces mystères. Votre prétendant dépose le micro et vous rejoint à votre table, l'air parfaitement confiant. Son émanation d'acide acétique vous frappe au visage et vous fait grimacer à en avoir les larmes aux yeux. Tu as entendu cette chanson. Elle était pour toi, dit-il en souriant. Du coin de l'œil, vous cherchez subtilement la sortie de secours. C'était « Histoire d'abeille », un texte de Philippe J. Fournier, paru en mai 2023 dans l'Actualité.
Des parents se mobilisent contre les restrictions budgétaires. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 7 septembre 2025 dans La Presse. Munis de casseroles, de crécelles, de cloches et de klaxons, les manifestants ont protesté à grand bruit devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal. Les coupes budgétaires en éducation, c'est inacceptable. On ne devrait même pas avoir besoin d'être ici, a lancé Alice Robitaille, 14 ans. Le rassemblement était organisé par Unis pour l'école, un mouvement citoyen de parents d'élèves qui se mobilise pour demander un réinvestissement massif et durable en éducation, de la petite enfance à l'université. Ce mouvement a été mis sur pied après que le gouvernement a demandé aux centres de services scolaires, en juin dernier, de réduire leurs dépenses de 570 millions de dollars. Depuis, une cinquantaine d'actions ont déjà été menées par Unis pour l'école. Le gouvernement a finalement accepté en juillet de réinjecter 540 millions supplémentaires dans le réseau scolaire. Mais ceux-ci devront aller en totalité au service aux élèves et être accompagnés d'une réduction des dépenses administratives des centres de services scolaires, a précisé le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Malgré tout, avec la croissance du nombre d'élèves et l'augmentation du coût de la vie, la pression sur le système d'éducation reste forte et les investissements actuels ne suffisent pas, selon le mouvement citoyen. Le gouvernement prend nos enfants en otage en leur coupant les ailes, a dénoncé Geneviève Simon-Potvin, porte-parole d'Unis pour l'école et mère de deux enfants, sous les acclamations de la foule. L'argent existe, mais il y a un manque de volonté politique d'investir en éducation, a affirmé Adam Pétrin, également porte-parole d'Unis pour l'école et enseignant au cégep Marie-Victorin, lors d'un point de presse tenu en amont du rassemblement. Et l'hémorragie qu'on voit actuellement n'est pas terminée. Selon lui, 210 postes de service aux élèves vont devoir être abolis faute de financement suffisant, notamment des psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers pédagogiques et techniciens de laboratoire, ce qui met à mal l'égalité des chances entre les élèves. On accentue les inégalités sociales, a-t-il souligné. Pour Geneviève Simon-Potvin, ces restrictions budgétaires surviennent alors que le système d'éducation était déjà à bout de souffle. Dans l'école secondaire de mes enfants, par exemple, l'école n'a pas trouvé de budget pour acheter des horloges, devenues pourtant indispensables depuis l'interdiction du téléphone cellulaire à l'école. « On est rendu là », a-t-elle lancé. Québec solidaire en appui. Québec solidaire, QS, était également présent au rassemblement, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. « Tous les enfants du Québec ont droit à une éducation de qualité », gratuite, du début jusqu'à la fin. Et les coupes en éducation, dans un système qui va déjà très mal, c'est assez, dit Ruba Gazal, porte-parole de Québec solidaire. Interrogée au sujet des 540 millions réinjectés par le gouvernement, elle a souligné que cet investissement venait avec plein de conditions. Ce sont des lignes de communication. La réalité, c'est que ça fait encore très mal, malgré ces réinjections, a-t-elle lancé. Ruba Ghazal était accompagnée de Gabrielle Nadeau-Dubois, qui avait indiqué fin août vouloir devenir porte-parole de QS en matière d'éducation à la rentrée. La défense de l'éducation publique, de l'égalité des chances, c'est la première bataille que j'ai menée dans ma vie, et j'avais envie de terminer ma carrière politique en menant encore une fois cette bataille-là, a-t-il déclaré. Pour sa part, le cabinet du ministère de l'Éducation a rappelé, dans un courriel envoyé à la presse, que le budget en éducation a augmenté de 7 % par année, en moyenne, depuis 2018. Nous avons grandement augmenté les services, notamment avec les aides à la classe, un programme national de tutorat et une plus grande accessibilité aux projets pédagogiques particuliers, PPP. C'est sans compter l'ouverture de 100 nouvelles écoles et de plus de 200 agrandissements, a-t-il détaillé. Selon le ministère, les 540 millions annoncés, qui devront servir uniquement pour les services aux élèves, s'ajoutent à un budget historique de 23,5 milliards de dollars investis cette année dans l'éducation. Mais on a aussi une responsabilité de respecter le portefeuille des Québécois. On demande donc au Centre de services scolaires des efforts administratifs nécessaires, tout en préservant les services aux élèves, a-t-il réitéré. C'était « Des parents se mobilisent contre les restrictions budgétaires », un texte de Chloé Bourquin paru le 7 septembre 2025 dans la presse.
Des archives de calcaire, un texte de Loïc Mongin, paru en mai 2023 dans le numéro 547 de la revue Pour la science. À l'instar des glaces polaires, les stalagmites et les stalactites sont des enregistreurs naturels du climat terrestre. Une exposition photographique rend hommage à ces témoins du temps qui passe. Stalagmites, stalactites, vous avez toujours hésité, ne sachant bien faire la différence. La solution est de les regrouper sous le terme de spéléothèmes, c'est-à-dire les concrétions de calcaire qui ornent de nombreuses grottes. Schématiquement, elles se forment ainsi. Riches en dioxyde de carbone, de l'eau de surface dissout le carbonate de calcium sous la forme de bicarbonate qu'elles croisent à mesure qu'elles percolent dans le sol. Une fois dans une grotte, le CO2 est relargué tandis que le carbonate de calcium ou calcite précipite à la pointe d'une stalactite et au sommet d'une stalagmite. Au gré des siècles et des millénaires, ces cristaux s'accumulent et constituent les concrétions. Ce scénario sous-tend toute la variété des spéléothèmes et la diversité des formes qu'ils peuvent prendre. Mais il y a plus. Inscrits dans le temps long, les stalagmites croissent au mieux d'un millimètre par an. Le mécanisme de fabrication de ces édifices en fait les témoins des conditions atmosphériques qui se sont succédées sur de longues périodes. Ils sont comparables en cela aux carottes de glace forées en Antarctique et, dans une moindre mesure, aux cernes de croissance des arbres. Dominique Genty, directeur de recherche CNRS au Laboratoire Environnement et Paléo-Environnement Océanique et Continentaux, EPOC, à l'Université de Bordeaux, porte sur ces spéléothèmes un double regard à la fois esthétique et scientifique. Avec son collègue Ludovic Devaux, ils ont conçu une exposition qui donne à voir la beauté de ces concrétions à travers des photographies tout en transparence de coupes fines de stalagmites, mais aussi la richesse des informations sur les climats du passé que l'on peut en tirer. Plus besoin d'aller au pôle sud, les grottes du sud de la France suffisent. Les indicateurs sont les différents isotopes des atomes de la calcite, CaCO3. Par exemple, dans les précipitations, la proportion d'oxygène lourd, O à la puissance 18, en comparaison avec l'isotope le plus fréquent, O à la puissance 16, est d'autant plus faible qu'il fait froid. Ainsi, la mesure à un niveau donné d'une stalagmite du rapport O puissance 18 sur O puissance 16 renseigne-t-elle sur la température à une époque précise? Comment déterminer celle-ci? Grâce à d'autres isotopes, en l'occurrence ceux de l'uranium et de thorium, dont la désintégration radioactive de l'un en l'autre est métronomique. Le rapport isotopique des deux est une mesure du temps écoulé. Ainsi équipé, un paléo-spéléoclimatologue est à même de reconstituer l'évolution du climat des millénaires passés, les grands cycles climatiques liés aux variations de l'orbite terrestre, les refroidissements abrupts liés au changement de la circulation océanique, le réchauffement dû aux activités anthropiques. D'autres activités humaines ont aussi laissé leur empreinte dans les stalagmites, comme les feux préhistoriques, ceux des premiers touristes dans les grottes, quand l'électricité n'y avait pas encore pénétré, et plus surprenant, les essais nucléaires atmosphériques des années 1950 et 1960. La stalagmite Clam-STM7 d'une longueur totale de 1,5 mètre a été trouvée, brisée naturellement, dans la grotte de Clamouse, dans l'Hérault. Entre 377 000 et 240 000 ans, elle a enregistré des variations liées à plusieurs grands cycles climatiques et à des périodes interglaciaires chaudes et humides, notamment entre 340 000 et 335 000 ans, en parfaite adéquation avec les informations tirées de l'analyse des carottes de glace prélevées en Antarctique dans le cadre du programme EPICA et remontant jusqu'à 800 000 ans. La stalagmite GLD-STM2, de 35 cm de hauteur, datée de 6200 à 4000 ans, vient de la grotte de Gouel Daman en Algérie. Les zones noires, dues à de la cendre, de la suie, trahissent les périodes d'occupation humaine. Rendez-vous dans quelques milliers d'années pour voir de quelle façon notre société actuelle et ses particularités se seront inscrites dans les spéléothèmes. C'était des archives de calcaire. Un texte de Loïc Mangin, paru en mai 2023 dans le numéro 547 de la revue Pour la science.